Jeanne le roi allait chez les bêtes, une oursonne mal léchée. Quand Toby et Chouchoute vinrent au monde, ils avaient la même toison brune, touffue et soyeuse, le même plastron blanc qui se continuait autour du cou, comme le collier à médailles que l'on met aux tout petits enfants, le même museau humide, les mêmes oreilles droites et pointues, les mêmes yeux noirs qui ressemblaient à de gros boutons de bottines, les mêmes gestes gourds et gentiment maladroits, le même petit cri grognon. Bref, ils étaient tout pareils. Pourquoi, dès lors, furent-ils traités si différemment? Pourquoi Chouchoute fut-elle câlinée et Toby malmenée? Ce serait difficile à dire, mais c'était bien facile à voir. Ils étaient nés au commencement de l'hiver, dans une tanière très confortable, garnie de mousse et fermée par des branches de mélèze, avec, tout à l'entrée, un bon fagot d'épines à l'usage des indiscrets. Là se trouvaient réunis Maître Martin, le chef de la famille, son épouse, les deux nouveau-nés, plus une petite sœur âgée de 13 mois, qui s'appelait Niquette. Or, Chouchoute s'était mise en tête que tout cela, gens et choses, était créé pour elle, pour son service et pour son agrément. Le plus fort est qu'elle était arrivée à faire partager son idée aux autres. Sa mère, notamment, se montrait pour elle d'une incroyable partialité. Les petites bêtes, pas plus que les petites gens, n'aiment rester tranquilles, et nos oursons gambadaient volontiers dans la tanière. Quand c'était Chouchoute qui faisait des sauts et des culbutes, Maîtresse Martin se pâmait d'admiration. Quand c'était Toby, on l'envoyait au coin. « Tu nous étourdis avec ton tapage, lui disait-on rudement. Tiens-toi donc en repos. » Quoique la caverne fût bien abritée, les petits avaient froid dès que tombait la nuit. Ils gémissaient et se rapprochaient de leur mère pour trouver un peu de chaleur. Mais dans sa bonne fourrure tiède, il n'y avait place que pour Chouchoute. Le pauvre Toby devait se tenir à l'écart. Parfois même, quand sa présence irritait la jeune égoïste, on l'envoyait à l'autre bout de la caverne. « Va donc plus loin, Toby. Tu empêches ta pauvre petite sœur de dormir. » Car il y avait ceci de curieux, que c'était Toby qui était rudoyé, et que c'était Chouchoute qui était à plaindre. Niquette était la meilleure fille du monde. Elle attirait alors son petit frère et le serrait tout contre elle. Mais elle était jeune, pas encore bien grosse, et sa toison était loin d'être aussi fournie que celle de Maîtresse Martin. Sa bonne volonté restait donc à peu près inutile, et nos deux abandonnés se consolaient en grelottant de compagnie. Le lait maternel même, ce bon lolo qui est la vie des tout-petits, profitait à Chouchoute beaucoup plus qu'à son frère. Dès que celui-ci s'avisait de réclamer son dû, il était rabroué. « Es-tu goulu ?» grondait la mère. « Si l'on t'écoutait, il n'y en aurait que pour toi. » Chouchoute, naturellement, ne manquait pas d'appuyer ce discours par la revendication impérieuse de ses prétendus droits. Et à l'instant, on coupait les vivres à l'infortuné Toby. « Allons, en voilà assez. Que restera-t-il à ta pauvre petite sœur ?» Cette année-là, l'hiver était excessivement dur. La neige couvrait les arbres et le sol de la forêt. Le marécage était glacé. Les animaux se terraient. Les abeilles avaient clos leurs ruches, de sorte que la table n'était pas souvent mise chez les Martins. Le père allait bien de temps en temps à la chasse, mais le plus souvent, il revenait bredouille. Il fallait vraiment être poussé par la famine pour s'aventurer jusqu'au parc à moutons et au poulailler des fermes. Les pas des animaux laissent des traces dans la neige et l'on craignait la poursuite des paysans. Parfois, tout de même, le vieil ours rapportait quelques gibiers, un lapin pris au gîte ou un oiseau trouvé engourdi par le froid. Comme de raison, les morceaux les plus délicats, les plus succulents étaient pour Chouchoute. Son frère et sa sœur devaient se contenter des reliefs. On ne les consultait pas dans l'attribution des parts. Alors, ils essayaient de tromper la faim en suçant leurs pattes, régime qui n'est pas fait pour engraisser les gens. « Patience, Toby, » disait alors la sœur aînée. « Attends seulement que le printemps revienne, et nous n'aurons besoin de personne pour trouver notre pitance. Je te mènerai aux bons endroits. Nous chasserons en compagnie de nos camarades, Bruno et Brunotte, et de notre frère déserteur, Michon. » « Raconte le printemps, Niquette, » disait le petit, avec une impatiente admiration. Et la brave oursonne redisait, sans se lasser, les merveilles de la belle saison. Les arbres où l'on grimpe pour récolter des fruits juteux, ou les baies qui craquent sous la dent, les champignons savoureux que l'on découvre sous la fougère, les papillons que l'on happe au vol, les cétoines et les scarabées d'or que l'on cueille du bout de la langue et que l'on déguste comme des bonbons, et tant d'autres bonnes choses que l'on trouve en flânant. Le poisson à fleur d'eau, la taupe sous la terre, la rainette dans le marécage, le lézard au bon soleil, sans compter le miel des ruches, les œufs des nids et l'oiselle qui les couvre. Toby n'avait pas trop de ses deux oreilles pour écouter ces beaux récits. L'eau lui en venait à la bouche et il demandait émerveillé. « Oh, Niquette, quand donc viendra-t-il le printemps ?» Un beau jour, ce fut non le printemps encore, mais l'annonce du printemps. Et l'on se hasarda à sortir. Le père et la mère d'abord, puis Niquette, puis les petits qui étaient sevrés et se tenaient solidement sur leurs jambes. Toby, qui s'était fait une joie de sa première promenade, fut un peu désappointé. La forêt noire et triste, les pâturages déserts, les gorges étroites aux berges taillées à pic, les aiguilles de glace qui semblaient déchirer le ciel, le froid rude, le silence et la solitude qui pesaient sur toute chose lui causèrent une tristesse mêlée d'effroi. Le vent, qui les bousculait au passage et soufflait tantôt en sanglots violents, tantôt en ricanements sinistres, tantôt avec une plainte âprement solennelle, le faisait frissonner d'épouvante. Le cri lugubre des corbeaux et le ululement des hiboux lui semblait plus redoutable que les pires gronderies de maîtresse Martin. Et il se prit à regretter sa caverne natale, paisible, tiède et bien close. « C'est ça le printemps ? » interrogea-t-il désenchanté. « Non, répondit Niquette avec ce calme que donne l'expérience. C'est seulement la montagne et la forêt, mais patience, elles ne seront pas toujours aussi mornes. Et même, telles qu'elles sont en ce moment, tu t'y habitueras et tu finiras par les trouver belles. » Toby n'en était pas très sûr. « Et Bruno, et Brunotte, et Michon, notre frère déserteur, quand donc les rencontrerons-nous, Niquette ?» « Un jour ou l'autre, Toby, sois tranquille, ça viendra. Patience. » Patience, toujours patience avec Niquette. L'ourson avait bien confiance en sa sœur aînée, mais il trouvait qu'elle abusait un peu de ce mot-là. Le pauvre, il ne se doutait pas à quel point il aurait besoin de le mettre en pratique. La belle éducation donnée à Chouchoute, jointe à ses dispositions naturelles, en avait fait l'oursonne la plus insupportablement égoïste qui se pût voir. De très bonne foi, elle s'imaginait être une personne d'exception, allant jusqu'à s'étonner de voir Niquette et Toby, peut-être même son père et sa mère, partager quelques droits avec elle, fouler le même sol, respirer le même air, se chauffer au même soleil. Tout lui appartenait, tous égards lui étaient dus. Voulait-elle se promener ? Il fallait que les autres fussent prêts à l'accompagner, mais tout de suite, à l'instant. Voulait-elle dormir ? Il fallait que chacun se tînt tranquille. Et si le pauvre Toby, qui était d'humeur folâtre, avait à ce moment l'idée de jouer, il recevait des calottes. La chasse n'était pas encore abondante, et l'on devait se contenter, le plus souvent, des pousses de sapin ou de jeunes crosses de fougère. Bien entendu, Chouchoute était la première servie et avait les meilleurs morceaux. Si un oiseau ou une petite souris se hasardait sur le passage de la famille Martin, ce gibier de choix était pour la favorite. Elle ne songeait même pas qu'il pût en être autrement. Quoi ? Les autres avaient faim ? Comme elle ? Un jour que Maître Martin rapportait au logis du poisson et une branche de sorbier couverte de jolies baies mûres, Chouchoute s'écria « Je veux tout le poisson !» Puis, apercevant le rameau, « Je veux toutes les sorbes !» « C'est bon, fit le père sans trop se fâcher, tu veux toujours tout, toi, et les autres ont le reste !» Alors Chouchoute, de s'écrier avec l'accent désagréable qui était le sien, « Je veux aussi le reste !» Au fond, Maître Martin n'approuvait pas le mauvais caractère et l'égoïsme de Chouchoute, mais il craignait l'humeur de sa terrible épouse et il ne soufflait mot. Pour éviter les scènes, il s'en allait à la pêche, à la chasse, voire même à la maraude avec quelques joyeux compagnons. Il aurait mieux fait de corriger sa fille. Le printemps vint tout à fait. La brise remplaça l'aquilon. La neige fondit jusque sur les sommets. La cascade se mit à couler en un ruissellement d'émeraudes et de perles. Les oiseaux chantèrent à plein gosier. L'herbe reparut. Des pentes de la montagne, on apercevait le vallon, tout blanc de fleurs d'amandiers, de cerisiers, de pruniers. Les ours ne rentraient plus dans leur tanière, même le soir. Et les petits s'endormaient sous les arbres, bercés par la grande chanson de la forêt. On avait retrouvé Bruno, Brunotte et Michon, le frère jumeau de Niquette. Cette réunion avait causé une joie générale, et de part et d'autre, on s'était communiqué les nouvelles de l'hiver. Les Bruno étaient orphelins. Un beau jour, leurs parents avaient disparu, et nul n'aurait pu dire s'ils avaient été tués par des chasseurs ou emportés par ces méchantes gens qui font profession de montrer les ours sur la place des villages. La mauvaise saison venue, les pauvres petits s'étaient installés tant bien que mal dans une tanière abandonnée. Et Michon, leur grand ami, trouvant qu'au logis paternel on récoltait plus de taloches que de provandes, était resté avec eux. Tout de suite, ils prirent Toby en affection et Chouchoute en grippe, bien que la sœur aînée ne se fût point plainte du mauvais caractère de sa cadette, ni des bourrades qu'on recevait en son honneur. Maîtresse Martin aimait certainement Chouchoute, mais elle aimait bien aussi musarder avec les commères du voisinage, et elle se débarrassait volontiers de sa favorite au profit des jeunes qui, bon gré mal gré, devaient en accepter la tutelle. il faut convenir que c'était sans enthousiasme. La vie sans elle aurait été si joyeuse et si bonne. Ensemble, on partait à la découverte. Mais Chouchoute prétendait avoir tout le bénéfice des expéditions sans en avoir la peine. Elle sommeillait à l'ombre pendant que les autres allaient à la pêche au risque de faire un plongeon dans la rivière, aux ruches, au risque de se faire piquer le museau par les abeilles, ou vers le sac des bûcherons, au risque de recevoir des coups de cognée, ou jusqu'au champ de céréales, au risque d'attraper des balles de fusil, ou encore dans les halliers, où ils laissaient des lambeaux de leur fourrure. Et le poisson le plus dodu, le miel le plus pur, le croûton le plus tendre, les épis les plus beaux, les baies les plus savoureuses, appartenaient sans conteste à cette pauvre petite chouchoute, comme sa mère continuait de dire. Et même tout le poisson, tout le miel, tout le grain, tous les fruits, si la récolte, lui semblait trop maigre pour un partage. Bruno et Michon avaient entrepris l'éducation des cadets qu'ils faisaient profiter de leur jeune expérience. Ils leur apprenaient à monter aux arbres sans effort, à traverser le marais d'un pas léger, à éviter le gazon traître qui recouvre une crevasse, à marcher au bord des ravins sans risquer de choir dans l'abîme. Tobie se montrait plein de docilité et d'entrain, mais Chouchoute ne voulait se donner aucun mal. Grimper aux arbres la fatiguait. Côtoyer les ravins lui faisait peur. Et il fallait la porter à la moindre flaque, parce qu'elle craignait de se mouiller les pieds. Quand il lui plaisait de se reposer, l'un ou l'autre devait rester auprès d'elle pour lui tenir compagnie, attendu qu'elle n'aimait pas la solitude. Et certes, tous préféraient les explorations aventureuses à la société de cette maussade de personnes. Si encore, elle avait été contente, mais non. Du matin au soir, à propos de tout et à propos de rien, c'était des bouderies, des plaintes, des menaces. Et à peine rendue au gîte, des rapports qui attiraient aux prétendus délinquants de bonnes bourrades et des calottes. Il arrivait parfois que Niquette et Toby étaient vengés par leurs camarades. On dégustait tout le miel d'un rayon, ne laissant à Chouchoute que les cellules de cire. Ou bien on mangeait les myrtilles, les arbouses, les baies d'églantier, et on lui passait la branche dépouillée. Bruno, qui avait l'esprit facétieux, accompagnait le présent de sages avis. Pas de miel pour les pauvres petites chouchoutes, cela fait du mal à leur quenotte. Ou encore, mange les feuilles, ma fille, rien de meilleur pour la santé. Alors il s'ensuivait des scènes d'indignation, des trépignements de rage, des insultes pour tous les assistants. Un vieil ours, qui longtemps avait dansé sur les places publiques et avait fini par s'échapper, lui dit un jour « Tu es, dans toute la force du terme, ce que ces brigands d'hommes appellent une oursonne mal léchée. » Et le nom resta à Chouchoute, en dépit de la colère de maîtresse Martin. Chouchoute causait du trouble, de l'ennui, du désordre dans la vie de ses frères, de leurs amis et de tous les oursons du voisinage. Aussi la détestait-on tant qu'on pouvait. Toby et Niquette, qui avaient pourtant bien à se plaindre d'elle, étaient seuls à la défendre, moitié par amour fraternel, moitié par peur des coups. Mais comme on est toujours puni par où l'on a péché, il fallait que Chouchoute portât la peine de son égoïsme et de son mauvais caractère. Une fois, un vent de peur souffla dans la forêt. « Les montreurs, criait-on de toutes parts. et chacun de se cacher, de s'enfuir ou de se préparer à la défense. Dans le désarroi général, on sacrifia Chouchoute, ou plutôt on l'oublia. Car, au milieu du danger, on ne songe qu'à soi ou à ce qu'on aime, et personne n'aime les égoïstes. La compagnie Bruno Michon courut donc à la tanière commune qui n'était pas très éloignée, sans s'inquiéter de Chouchoute. Pourtant, la bonne Niquette, qui n'avait pas de rancune, revient en arrière afin d'aider sa jeune sœur à se sauver. Mais Chouchoute n'était pas de la même essence que tout le monde. Il lui fallait un traitement de choix. « Je veux que tu m'attendes », ordonnait-elle quand Niquette prenait de l'avance. Et comme l'autre essayait de lui faire voir le péril et la nécessité de se hâter, « Je suis fatiguée », s'écria-t-elle, « je veux que tu me portes ». « Oui, da, on avait bien le temps de faire des cérémonies avec l'ennemi sur les talons. » Bruno et Michon, qui étaient très forts, emmenèrent Niquette, sans prendre garde à ses supplications. Chouchoute, qui ne savait ni courir, ni grimper aux arbres, ni se tirer d'affaire de quelque façon que ce fût, était une proie tout indiquée. Comme elle était gentille, dodue, et qu'elle avait une belle fourrure épaisse et soyeuse, les montreurs furent tout glorieux de la capturer. Bonne aubaine, firent-ils. Et les ours, oursons et oursonnes du clan Martin, que Chouchoute assommait de son mauvais caractère, dirent à leur tour « Bon débarras !»